De votre présence, et tout particulièrement à nos frères catholiques qui commencent leur longue veillée pascale, puisque c'est Pâques aujourd'hui qui est célébré dans l'église romaine. Et voilà, je voudrais d'abord vous faire une communication. Demain, il était prévu de faire l'équivalent de cette entretien de ce soir, il était prévu de le faire à 14h. Mais étant donné le programme, la durée de la liturgie, le repas, et on préférerait le mettre à 15h. Et même là, ça va être un peu sportif. Enfin, les marathons, on a l'habitude. Donc 15h. S'il y a des gens qui sont pas là ce soir, qui viendront demain, si vous en connaissez, faites-le savoir, tout simplement. Et sans conservation de Rome à l'avance, je vous préviens. Donc, je ne vois pas la raison pour laquelle vous pourriez venir. Voilà. Ceci dit, on va parler aujourd'hui d'un mystère. Et certainement le plus grand mystère de la vie chrétienne, la plus grande expérience qui est d'ordre mystique, qui est la divine liturgie. Des expériences mystiques, tout le monde peut en faire. Souvent, pour ceux auxquels ça arrive, ce sont des expériences personnelles, j'ose pas dire individuelles, parce que justement, c'est pas l'individu qui est fait cette expérience-là. Mais dans c'est une expérience personnelle, mais étendue, englobant aussi, si elle est authentique, englobant l'ensemble de l'Église. Ici, dans la Divine Liturgie, c'est aussi une expérience authentiquement mystique, mais qui a cette particularité d'être vécue personnellement, mais d'être d'abord communautaire. Et communautaire au sens le plus fort du terme, c'est-à-dire au sens de l'expérience de la communion totale entre des membres d'une communauté représentant d'une assemblée, représentant l'assemblée de toute l'Église, depuis le premier homme jusqu'au dernier, et incluant dans cette expérience d'unité la présence, non seulement évidemment du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais la présence de la Mère de Dieu, la présence des anges, des archanges, de toutes les puissances célestes et incorporelles, c'est-à-dire de l'univers entier. J'annonce tout de suite la couleur. Il y a plusieurs manières sans doute, mais globalement, deux manières d'envisager la divine liturgie. On peut peut-être l'envisager comme un culte rendu par une communauté au Dieu qui s'est incarné, que nous connaissons, que nous aimons, mais un culte qui lui est rendu, avec, je ne peux pas dire en retour, mais avec la conscience qu'en retour, Dieu nous donne, nous accorde un certain nombre de bienfaits que nous lui demandons pendant cette liturgie. Le pardon de nos fautes, l'amour de nos frères, la vie éternelle, une vie sainte, ce qui est nécessaire à notre subsistance, l'amélioration de la condition de notre vie, la condition du monde, notamment la paix, et bien d'autres choses, bien sûr. Ça, c'est une optique. Mais si on l'appelle non pas la liturgie, mais si on l'appelle la divine liturgie, c'est qu'il y a une autre dimension. La divine liturgie, c'est l'expérience de l'assemblée et personnelle en même temps, l'expérience de la vision du royaume des cieux où siège le Père, le Fils comme Pantocrator et où le Saint-Esprit, comme c'est sa mission, descend sur terre pour nous insuffler, comme il avait insufflé l'âme ou la vie dans le protoplasme, c'est-à-dire dans le premier homme fait de terre. Et le Saint-Esprit, il descend pendant la divine liturgie et nous transfère dans l'autre royaume, c'est-à-dire dans l'autre dimension de notre existence, dimension qui était celle dans laquelle les hommes avaient été créés, mais ils ont été déchus par leur péché, par leur orgueil, c'est-à-dire par notre péché et par notre orgueil. Mais la divine liturgie et l'expérience que j'oserais appeler prophétique, c'est-à-dire qu'elle est une vision ici et maintenant d'une réalité qui existe bien ici et maintenant, mais que l'on ne voit pas encore en totalité, qu'on ne verra, qu'on ne connaîtra en plénitude que lorsque nous serons engrangés dans le royaume des cieux. Mais prenez-le autrement, cette expérience-là, c'est déjà non seulement la prise de conscience, mais l'expérience de ce royaume des cieux dans lequel nous sommes déjà aujourd'hui et dont nous redescendons sur terre pour à la suite de l'Esprit Saint, pour répandre, comme il nous avait été demandé de le faire dans le paradis, pour répandre sur la terre entière, c'est-à-dire dans tout le cosmos, le reflet de la gloire de Dieu. Ce n'est que ça, la divine liturgie. Nous ne la ressentons pas toujours comme quelque chose d'extraordinaire. Il est tellement habitué. Ça nous paraît tellement banal. Mais ce n'est pas banal. Et à certains moments, il ne faut pas s'en étonner. Ça fait partie de notre condition humaine déchue de ne pas le sentir toujours avec l'enthousiasme que le thème mériterait. Il est normal qu'on trouve que c'est long de sentir les effluves de la dinde qui est en train de cuire. Je fais allusion à Alphonse Daudet, la dinde qui est en train de cuire, et puis d'avoir hâte que la liturgie se termine pour pouvoir aller goûter la dinde. Ça fait partie de notre condition pécheresse, et c'est notre péché. C'est pas notre faute, c'est notre péché. Et bien d'autres choses comme ça. C'est normal de ressentir nos varices qui nous font mal en restant debout longtemps, plutôt que d'avoir l'impression d'être au paradis. Mais le paradis passe à travers cette ascèse-là aussi. Donc c'est normal de ne pas en avoir simplement, il faut que nous sachions tous que notre expérience profonde, elle est réellement, que nous en soyons conscients ou pas, que nous y fassions attention ou pas, elle est réellement cette accession privilégiée pendant quelques minutes, une heure et demie, cette accession dans cet autre royaume qui nous est promis, et dont on a la nostalgie parce qu'on l'avait connu. Et que, malgré notre insensibilité, c'est là vraiment que nous nous tenons. Je ne pense pas que beaucoup d'entre vous sentent l'échange d'oxygène qui se fait à travers vos poumons entre l'oxygène de l'air et l'oxygène du sang. Et pourtant, c'est votre expérience, et la mienne aussi. Mais je suis incapable de vous la décrire, mais je la vis, et vous aussi. Eh bien, mon exemple est un peu grossier, mais il en va un peu de même pour l'expérience que j'appelais tout à l'heure mystique. C'est-à-dire que cette expérience liturgique, elle est véritablement la nôtre. Et après, si nous ne la ressentons pas dans notre intelligence, appelons-la dans notre tête, et même quelquefois pendant notre cœur, c'est pas grave. Mais nous sommes là. Et nous sommes, si les écailles qui obstruent nos yeux et nous empêchent de voir la réalité tomber enfin, nous verrions cette splendeur de la gloire de Dieu. Nous verrions le Pantocrator, nous verrions le Seigneur Tout-Puissant siégé à la droite du Père et les anges autour de lui et les vieillards, les sages, les saints autour de lui, c'est-à-dire tous ceux qui sont incorporés au Christ. Voilà les deux manières de percevoir la divine liturgie. Et vous pensez bien que mon propos aujourd'hui est d'essayer d'évoquer maladroitement et indignement quelques-uns de ces aspects de la seconde manière de voir la divine liturgie. Mais surtout, je vous mets en garde, n'en prenez pas, empressez-vous d'oublier ce que je vais vous dire. De manière à ce que votre participation à la divine liturgie ne soit pas un exercice d'imagination. Ah, ça veut dire telle chose, là, ça veut dire... Ça, c'est du mécanisme. un saint mécanisme, un mécanisme divino-humain, un sacrement, un mystère, un symbole. Mais il faut oublier cela et le vivre simplement. Oubliez ce que vous avez appris dans vos études secondaires, dans les cours de sciences naturelles. Oubliez le rôle des poumons pour faire passer l'oxygène de l'air dans le sang qui a besoin d'être purifié. Oubliez ça, mais vivez, oxygénez vos poumons, oxygénez votre sang. Et bien là, de la même manière, oubliez les significations, les signes, les symboles, mais vivez, entrez dans les symboles, dans les mystères, dans le sacrement de la divine liturgie. La liturgie s'exprime à travers des symboles. Les symboles, ce sont des moyens divino-humains. Je pourrais dire humano-divins. Humano d'abord parce que ce sont des moyens humains mis à notre disposition. Des gestes, des couleurs, des formes, des odeurs, des sons, des chants. Enfin, c'est tout un monde transfiguré qui existe réellement et qui, j'allais dire, serait bassement matériel, mais qui en même temps unit une autre réalité, invisible celle-là, mais pas moins réelle, mais plus réelle encore. C'est-à-dire, plus réelle, il n'y a pas plus réel que le réel, mais les premières choses humaines sont passagères, les autres sont éternelles. Et ces moyens, ces symboles, nous unissent justement d'une réalité matérielle immédiate avec une réalité moins visible à nos sens déchus, mais qui, elle, est une réalité éternelle. Donc la liturgie s'exprime à travers des symboles, mais ce ne se résume pas à ces symboles. Et le danger, pour ça que je vous disais tout à l'heure, d'oublier ce que j'allais vous dire, le danger d'une explication de la divine liturgie, c'est d'être en admiration devant les symboles et leur signification, mais tellement attaché à cette admiration-là, oublier la réalité qu'ils représentent ou à laquelle, plus exactement, ils nous initient. Vous allez voir, vous pouvez voir que je suis sans papier, j'ai pas pu préparer cette intervention, non pas faute de matière, mais parce que je me suis senti incapable de le faire. C'est un tel mystère que j'ai espéré, et j'espère encore, que le Saint-Esprit va nous inspirer pour nous faire percevoir, pour nous faire entrer dans ce mystère, et pas passer par une explication complètement logique, ou tout du moins nous faire passer par une véritable compréhension logique. Et quand je dis logique, je ne parle pas de la logique rationnelle, mais je parle de la logique du logos, de la parole de Dieu, du verbe de Dieu, qui, sans elle, rendrait impossible notre perception de la divine liturgie. Et je vais essayer simplement de suivre le cours de la divine liturgie, en abrégeant beaucoup, et parce que Sœur Suvanie ne veut pas que ça dure longtemps. Mais je voudrais m'attacher, dans tout son déroulement, à relever quelques points probablement dans le désordre, bien que je vais essayer de suivre l'ordre de la liturgie, pour vous montrer comment ce que je viens de vous expliquer précédemment, maladroitement, comment s'exprime et se vit réellement dans la liturgie. Notez que, sauf si je ne le précise, quand je vais vous parler de liturgie, entendez toujours la divine liturgie. Parce que liturgie est un terme beaucoup plus général. C'est une liturgie, c'est un exercice, c'est un acte. Ma définition ne va pas être parfaite, mais un acte que les hommes rendent. Le déroulement d'un office, si vous voulez. C'est une liturgie, c'est une offrande que l'homme ou que les hommes ou une assemblée offre à Dieu. Mais vous avez compris, moi je voudrais vous parler de la divine liturgie, ce qui est une liturgie effectivement, mais très particulière, puisqu'elle est divine, associant, unissant la liturgie humaine et la liturgie divine. Ça y est, je vous ai lâché le mot. Et vous allez voir que ça commence dès le premier instant. Lorsque le clergé, prêtre, diacre, commence... s'achemine vers l'autel, commence la liturgie. Après avoir fait une métanie, l'équivalent d'une génuflexion, devant le trône de l'évêque, parce que les prêtres, lorsqu'ils célèbrent, ne célèbrent qu'au nom de l'évêque, ils n'ont pas le pouvoir en eux-mêmes de célébrer la divine liturgie, parce que les divines... C'est la liturgie du Pantocrator, c'est la liturgie du Christ, autour de laquelle sont tous. Or, le représentant du Christ sur terre, c'est l'évêque, pas le prêtre. Le prêtre est un collaborateur, une aide de l'évêque, et le diacre, une aide du prêtre. Donc, il demande d'abord, avec humilité, d'être revêtu de la dignité, pour accomplir l'acte divin et humain qu'il va accomplir. Et après avoir pris la bénédiction de l'évêque, même en son absence, parce qu'on est hors de l'espace, donc en s'inclinant simplement au trône de l'évêque, si celui-ci est absent, c'est quand même sa bénédiction qui est prise. La première chose que le clergé fait, c'est d'implorer l'Esprit Saint. Sans l'Esprit Saint, rien ne peut se faire. Roi céleste, paraclet, esprit de la vérité, petite parenthèse, c'est pas esprit de vérité, c'est pas un esprit qui dit ce qui est juste et qui tait ce qui est faux. C'est esprit de la vérité. Or, de vérité, il n'y en a qu'une. C'est l'existence de Dieu qui nous fait exister. Donc, esprit de la vérité, c'est déjà un acte de foi qui répond à l'interrogation de Pilate quand le Christ allait être condamné, que Pilate lui demande, mais qu'est-ce que la vérité ? Et le Christ n'a rien répondu, il ne pouvait rien répondre, parce que la vérité, Pilate l'avait sous les yeux, c'est-à-dire le Christ lui-même, à la fois Dieu et à la fois homme. Voilà la vérité. Donc, roi céleste, paraclet, esprit de la vérité, toi qui es partout présent et qui emplis tout, qui emplis, c'est-à-dire pas rempli, mais qui emplis de l'intérieur, si vous voulez. Trésor des biens et dispensateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure, et sauve nos âmes, toi qui es bon. Suis après, je ne peux pas vous commenter toutes les phrases les unes après les autres. Hein. Il y a 60 pages de liturgie, c'est impossible. Suit immédiatement d'après le trisagion. D'emblée, tout de suite. Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, aie pitié de nous. Répétez trois fois. C'est extraordinaire. On n'y fait pas attention. On le raconte, on le dit. Mais quelle tristesse de ne pas faire attention. Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, c'est le chant qu'Ézéchiel, que Daniel, que Jean dans l'Apocalypse ont entendu de la bouche des anges, si on peut leur appliquer une bouche, et si on peut leur appliquer un chant. Mais c'est les termes avec lesquels ces trois prophètes ont entendu, ont vu les anges chanter la gloire de Dieu dans le royaume des cieux. Donc nous-mêmes, lorsque, ou les prêtres à l'entrée de la liturgie, comme je l'explique, ou les fidèles que nous sommes tous à plusieurs moments de la journée, disons Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, mais notre cœur devrait exploser, on devrait décoller, on ne devrait plus être sur terre, on devrait être déjà dans ce royaume qui nous est promis. Parce que si nous le chantons, si nous disons Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, c'est que l'Esprit Saint est en nous et nous fait chanter à l'unisson, chanter en même temps, d'un seul cœur, avec les anges. C'est donc que nous sommes, j'ose pas dire conscients, mais nous savons, nous avons la foi, c'est-à-dire que nous expérimentons cette communication, cette communion, cette expérience vitale entre les anges qui chantent la gloire de Dieu et nous-mêmes qui chantons la même gloire de Dieu. Nous sommes déjà entrés dans ce mystère. Et retenez ça pour la suite de l'explication, si j'ai le temps d'y arriver, parce que j'aurais dû le noter, sans quoi on va y être à minuit encore. Notez ça parce que vous allez voir que cette progression-là d'imploration de l'Esprit Saint et puis du chant du Trisagion, Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, c'est, vous allez le retrouver sous toutes ses formes d'un bout à l'autre de la divine liturgie. Parce que c'est le seul mystère. Qu'est-ce que c'est que la vérité ? La vérité, c'est que le Christ est à la fois Dieu et à la fois homme. Mais puisque le Christ est à la fois homme, il est donc ce que nous sommes, ou nous sommes ce que lui est. Donc nous sommes notre expérience, la vérité, c'est que notre expérience, c'est cette participation à la vie divine, dont certes nous sommes indignes, mais à laquelle nous avions été préparés par vocation dans le paradis, et à laquelle le Seigneur nous fait la grâce inouïe de nous faire reparticiper, malgré notre indignité, à travers le pardon de nos fautes, à travers ce qu'on appelle le salut, à travers le cheminement de notre conversion sur terre pour arriver enfin, au-delà de notre mort, à cette expérience éternelle, éternellement en progression d'union en Christ avec le Père et l'Esprit Saint dans la gloire de Dieu qui rejaillit sur nous, mais déjà aujourd'hui. Donc ça, nous allons le retrouver plus loin. Et puis après, je vous l'explique aussi parce que c'est dans notre prière quotidienne à tous. Le Trinité, l'invocation à la Trinité, Trinité Sainte, aie pitié de nous, Seigneur, purifie-nous de nos péchés, Maître, pardonne nos iniquités, Saint, visite et guéris nos infirmités à cause de ton nom. Parce que quand on vient d'exprimer le mystère que nous allons vivre, comme je viens de vous le dire, comment ne pas être pris d'humilité en même temps en se sentant indigne, donc demandant à Dieu de pardonner nos iniquités et de guérir nos infirmités. Petite parenthèse qui n'est pas sans importance, purifie-nous de nos péchés, ne signifie pas que purifie-moi pardonne-moi mes fautes de gourmandise, mes mensonges, mon égoïsme, quand je fume un peu trop, quand je... bref, ça ne veut pas dire purifie-moi de tous ces petits péchés-là. Ça veut dire purifie-moi de ma condition déchue. Il y a une différence entre nos péchés et notre péché. Nos péchés, c'est nos petites fautes individuelles, même nos adultères, c'est des petites fautes. Je ne vous invite pas à pratiquer l'adultère pour autant, ce n'est pas ça que je veux dire. Hein. Mais ça, c'est ce qui vient de nous, c'est la conséquence justement de notre déchéance, c'est la maladie de notre âme, la maladie que nous avons contractée par notre égoïsme, par notre oubli de Dieu, ou par notre refus de Dieu. Mais justement, nos iniquités, nos infirmités, c'est cette paralysie dans laquelle nous sommes, cette paralysie qui nous empêche de pouvoir nous mouvoir vers Dieu, ou de nous mouvoir en Dieu. C'est l'expérience de, je n'ai pas d'autre mot pour rester dans le vocabulaire de l'Église, que cette déchéance de notre nature, cette maladie fondamentale dont nous prenons conscience et qui nous empêche d'être avec Dieu, qui nous empêche de voir Dieu et qui nous fait quelquefois concevoir Dieu comme la gêne, comme celui qui nous empêche de, ou qui nous donne mauvaise conscience, qui nous empêche de jouir des biens et des facilités de la terre, si je puis dire, etc., etc., etc. C'est ça, notre iniquité. Et c'est de cela qu'il faut demander à Dieu notre délivrance. Et puis, comme tout à l'heure, après avoir invoqué l'avenue de l'Esprit-Saint, et que nous avons chanté, le Trisagion, Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, bien maintenant, après avoir demandé à la Sainte Trinité de pardonner nos iniquités, on vit le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc., etc. Tout le Notre Père que je n'ai pas besoin de vous réciter parce que vous le connaissez par cœur. Mais là encore, le Notre Père n'est pas à prendre comme une prière, une invocation à Dieu, bien qu'elle y ait ça, mais c'est comme toute l'expression de notre foi, l'expression de qui est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et qui nous sommes. Et nous demandons dans Notre Père que Dieu accomplisse sa volonté, c'est-à-dire qu'il nous transfigure, c'est-à-dire qu'il unisse la terre, tous les hommes en lui, Christ Pantocrator. C'est le Notre Père est déjà, comme le Trisagion que nous disions tout à l'heure, est déjà l'apothéose de notre prière, l'accession à un domaine, à une révélation qui nous est faite par le Christ lui-même, mais auquel l'Esprit-Saint que nous avons imploré précédemment nous fait entrer dans le mystère et nous le fait, non pas comprendre, mais nous le fait ressentir progressivement tout au long de notre vie. Ensuite, après quelques prières, toujours dans le même sens, de pardon, mais sans de demande de pardon, mais associant toute l'Église à cette démarche des prêtres vers l'autel, il s'adresse au Sauveur présent dans l'icône qui se trouve à gauche de l'iconostase, donc à droite pour nous. Demandons au Christ de nous intégrer dans ce grand mystère. Et puis après, on s'adresse à la Mère de Dieu, qui est de l'autre côté, celle qui nous montre le chemin du Christ, la voie du Christ, qui est la porte. Je suis la porte, qui entrera par moi sera sauvé. Et donc on s'adresse à la première des hommes qui a été divinisée, qui a porté en elle, c'est-à-dire en nous, puisqu'elle est de notre nature, qui a porté celui qui s'est incarné en nous, mais à travers elle, et qui est la mieux placée pour nous guider vers lui qui est la porte. Et étant entrés ainsi en communion avec l'un et avec l'autre, nous adressons après au saint. Et c'est-à-dire que toute l'Église, là, est déjà récapitulée, est déjà réunie dans notre conscience et dans notre prière, après quoi, avec humilité, les prêtres peuvent entrer dans l'iconostase, entrer dans le Saint des Saints, entrer au-delà de ce qui est visible. Ce qui est visible, c'est le cœur où se tient le cœur, où est le monde avec un grand M, si vous voulez, et où se tiennent liturgiquement les fidèles, non pas comme une caste inférieure, comme c'est quelquefois hélas compris, mais comme les participants de cet acte liturgique, eux représentent le monde, mais pas le monde déchu, le monde transfiguré. Parenthèse, c'est pour cela d'ailleurs qu'à différentes reprises, pendant les liturgies, pas seulement la divine liturgie, mais pendant toutes les liturgies, les diacres ou les prêtres, à défaut de diacres, encensent toute l'Église et les icônes de l'Église, et en même temps encensent les fidèles qui sont là. Parce que les fidèles ont ce ministère de représenter toute l'humanité, et ils sont aussi la figure du Christ, puisqu'ils ne font qu'un entre eux. Donc c'est en tant qu'icône qu'ils sont encensés. Et autre parenthèse qui m'évitera d'y revenir plus tard, ces encensements sont toujours la manifestation, je vous parlais des symboles pour commencer, sont toujours la manifestation d'un acte qui va se produire, d'une apparition. Sur le mont Sinaï, quand Dieu est apparu à Moïse, la terre tremblait, la montagne fumait. Elle fumait, c'était pas un volcan, c'était bien pire, bien plus grand, pardon, qu'un volcan. C'était la gloire de Dieu qui se manifestait sous forme de nuée. Et l'encens que nous utilisons, c'est cette nuée, imagée, si je puis dire, symbolisée par la fumée de l'encens, mais qui est véritablement la nuée de la présence divine, celle qui a ombré la mère de Dieu, celle qui a entouré la mère de Dieu le jour de l'Annonciation que nous venons de vivre, et qui a fait d'elle la mère du Sauveur. C'est aussi une offrande, l'encens avec lequel les fidèles sont encensés et les icônes, c'est aussi une offrande. L'homme donne ce qu'il a de meilleur en parfum agréable à Dieu. L'Esprit Saint est un parfum. L'Esprit Saint ne se mange pas. On mange le corps et on boit le sang du Christ, mais l'Esprit Saint, lui, se respire, il est la vie, il est l'esprit. Et la réception de l'encens, c'est cet Esprit Saint que nous inhalons. Raison pour laquelle, normalement, l'encens devrait avoir une agréable odeur par les effets de notre monde déchu. Les symboles portent aussi le contraire, puisqu'on utilise les choses de ce monde, quelquefois aussi des odeurs un peu âcres, un peu brûlées, mais ça, il ne faut pas regarder cela. Vous savez, quand il y avait des milliers et des milliers d'animaux qui étaient immolés dans le temple de Jérusalem, même si ça se passait à l'extérieur, imaginez l'odeur que ça pouvait avoir. Je peux vous parler d'expérience. Je n'ai jamais été dans le temple de Jérusalem et pour cause, je suis un petit peu trop jeune. Mais j'ai assisté une fois à la Pâque des Samaritains sur le mont Garizim. Et là, ils ont égorgé à la même seconde une centaine de moutons qu'ils ont brûlés, enfin ils ont brûlé les parties qui devaient être brûlées suivant les rites que je ne vais pas vous expliquer tout de suite. Eh bien, je vous assure qu'on avait beau être sur des podiums et on était peut-être 2000 personnes, bah, c'était intenable. Mais enfin, c'était leur sang, c'était l'offrande agréable à Dieu. Je ne me moque pas en disant ça. Voilà le nom de l'ensemble. Voilà pourquoi il faut, comment dire, dans notre, quand nous sommes encensés dans la liturgie, il faut recevoir avec humilité cet encensement-là et nous incliner, le recevoir. Vous ne pouvez pas souvoir la souffrance des diacres ou des prêtres quand ils voient les fidèles qui sont engoncés dans leur stalle, la tête entre les mains, qui se laissent encenser sans y faire attention, sans rien respirer du tout, en attendant simplement que ça se passe, mais tellement sûrs de leur méditation intérieure qu'ils n'ont même pas le temps de regarder ce qui se passe. Où est la transfiguration ? La transfiguration est une transfiguration du corps. On peut être humble, on a de quoi être humble, mais recevons la gloire de Dieu et qu'elle nous rende joyeuse, respirons-la. Respirons l'Esprit Saint. Je suis obligé de passer, parce que je devrais presque terminer. Il m'a été demandé d'écrire aussi dans une chose que vous ne voyez pas, les prêtres, et qui pourtant est importante aussi, l'habillement des ministres du culte. Avec l'introduction que je viens de vous faire, vous comprenez évidemment que lorsqu'on s'apprête à célébrer la liturgie, divine liturgie, que nous soyons d'un côté ou de l'autre de l'iconostase, nous devenons d'autres hommes. Pas exactement d'autres, parce que ce sont bien les mêmes. Mais nous vivons sur un autre registre. Il faut se dépouiller de quelque chose, de la lourdeur de notre condition humaine pour accéder avec la force du Saint-Esprit à cet autre monde dans lequel nous sommes initiés. C'est la raison pour laquelle vous, fidèles, prêtres du cosmos, vous avez un rôle sacerdotal et quand vous venez à la liturgie, vous devez aussi abandonner vos pantalons troués, vos pantalons qui vous descendent au milieu des fesses. Enfin, je sais que je date un petit peu, c'est pour vous essayer d'imager quelque chose. Nous devons abandonner nos tabliers, nos blouses de travail, sauf nécessité impérieuse, évidemment. Et nous devons nous habiller comme des êtres transfigurés. Je regrette, moi je suis un vieux, je regrette les pays traditionnels où il y avait des vêtements qu'aujourd'hui on appelle folkloriques, mais qui étaient des vêtements amples, qui montraient dans la vie de tous les jours cette réalité de la transfiguration que l'on mettait tout particulièrement pour la liturgie ou les dimanches, les jours de fête, qui montraient qu'on était dans un autre monde, dans un autre moment, dans un autre temps. Mais nous pouvons garder quelque chose de cet esprit-là. Et je constate que beaucoup d'entre vous le font, et ça me réjouit. Mais de la même manière, les prêtres et les diacres, quand ils entrent dans le sanctuaire, se dépouillent du vieil homme ils revêtent un homme nouveau. Ils revêtent pas un homme nouveau, pardon. Ils revêtent l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est le Christ, ou c'est la nature humaine christifiée, la nature humaine remplie, transfigurée, illuminée par le rejaillissement de la gloire du Christ sur le monde que représentent aussi bien les fidèles que le clergé. Et là, se dépouillant de leurs vêtements ordinaires, n'ayez pas peur, hein, ils ne se dévêtent pas complètement, ils enlèvent juste le rason. Il s'habille en des êtres nouveaux. Il commence par mettre une tunique. Ah, je ne vais pas blasphémer, mais peut-être que je me ferais mieux comprendre si je vous disais qu'il met une gel là-bas. Mais effacez ça, hein. Et une tunique, c'est-à-dire une espèce de grande chemise, si vous voulez, de couleur, quelquefois blanche, évoquant plus ou moins, bien que ce ne soit pas systématisé, évoquant plus ou moins le type de fête que l'on célèbre ce jour-là. Si c'est une fête résurrectionnelle, Pâques ou les dimanches, on met plutôt des tuniques blanches. Si c'est la fête d'un martyr, on mettait plutôt une tunique rouge. Mais c'est loin d'être systématique. Et en mettant cette tunique, le prêtre ou le diacre, je suis incapable de le savoir par cœur quand je suis pas pendant la liturgie, alors je suis obligé de le lire.
Il m'a revêtu d'un vêtement d'allégresse, il m'a salé le front d'une couronne comme un époux, comme une épouse immornée de beauté.
Ce qui montre que le vêtement qu'il revêt est composé d'un diadème, d'une couronne glorieuse, et d'un vêtement lumineux qui le fait revêtir. Il fait être revêtu de la gloire de Dieu qui rejaillit sur lui. Et puis, le prêtre, à ce moment-là, met un épitrachilion, c'est-à-dire une étole, c'est-à-dire une bande d'étoffe qui lui passe autour du cou comme une grande écharpe. Mesdames, vous savez ce que c'est qu'une étole, vous en portez aussi maintenant, de votre vocabulaire. Et qui descend de chaque côté de son cou, alors que le diacre, lui, met aussi une étole sur une épaule, passant autour de son cou et qui retombe derrière, et qui, pour le diacre, représente en quelque sorte sa dignité de serviteur de Dieu, comme les anges. Ou avec les anges, ou en communion avec les anges dans le ciel, et ces deux pans de son étole, son orarion, se représentent comme les ailes d'un ange, si vous voulez. Ce qui montre sa fonction de service glorieux dans cette double liturgie qui a lieu au ciel et sur la terre. Le prêtre, lui, à cette étole qui descend de chaque côté de son cou, et comme le rappelant l'huile de consécration que le prophète Samuel faisait, que les prophètes avec lesquels les prophètes instituaient les rois dans l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, il dit: béni soit Dieu qui répand sa grâce sur ses prêtres comme un parfum sur sa tête, avec une corne, on n'a pas d'icône le représentant ici, mais et qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de son vêtement. C'est la consécration, l'huile, la même huile que le saint crème, si vous voulez, de la chrismation, qui a revêtu le prêtre de son sacerdoce et qui est signifié par là. Ensuite, il met, le prêtre met une ceinture. Béni soit celui qui me ceint de puissance. Il a rendu ma voix sans tache. lui qui restaure mes pieds comme ceux d'un cerf et me tient debout sur les lieux élevés. La ceinture avait déjà été demandée par Dieu pour les Hébreux qui devaient immoler l'agneau pascal originel avant de quitter l'Égypte, qu'ils devaient le manger debout, le bâton à la main, comme des pèlerins prêts à partir, aller à marcher, et en même temps le bâton signifiant déjà par avance la croix la croix qui nous sauverait par l'immolation du véritable agneau qui est le Christ. Et il devait être saint d'une ceinture, parce que la ceinture maintient les vêtements autour du corps, tient les vêtements autour du corps, et ce qui donne la possibilité de marcher, d'être à l'aise dans ses mouvements, et ce qui est, indispensable avant d'entamer une grande marche, la grande marche de la traversée du désert qui allait durer pendant 40 ans, et pendant les grandes marches dans laquelle nous sommes encore, nous, y compris dans cette liturgie-là, où nous nous acheminons vers la terre promise, cette Jérusalem céleste vers laquelle nous tendons. Et puis, diacres et prêtres mettent des manchettes que vous pouvez voir quand ils célèbrent, qui tiennent leurs manches serrées, et qui sont comme des éléments d'une armure. Comme vous pouvez en voir sur les icônes, quand vous voyez des saints guerriers, ce sont les armures qui nous tiennent les muscles, qui donnent la force pour manier les instruments dont nous avons besoin, car dans la liturgie, il y a aussi un aspect guerrier. Il y a notre expérience à tous est une expérience aussi de lutte contre les puissances infernales, contre le diable, les diables, les démons, en communion avec les armées célestes, participer à leur lutte et entrer en force contre toutes nos puissances ennemies pour entrer dans ce royaume que nous attendons. Et éventuellement avec l'évêque, en communion avec l'évêque, il est donné aux prêtres de partager les honneurs dus à l'évêque, et ainsi que les prêtres peuvent revêtir un épigonation, ça veut dire qu'il se met sur au-dessus du genou, c'est-à-dire un carré ou losange qu'il pose autour de son cou, et en prononçant ces paroles: saint ton épée sur ta cuisse, puissant dans ta splendeur et ta beauté, tends-toi, prospère et règne pour la vérité, la douceur et la justice, et ta droite te guidera merveilleusement. Cet épigonation représente en quelque sorte le fourreau d'une épée dont le célébrant a besoin pour aller se battre contre ceux que je viens de vous nommer précédemment. Et ainsi revêtus, les ministres de la liturgie peuvent entrer dans la fonction. Ils sont armés, c'est le cas de le dire. Ils sont armés pour accomplir ce qu'ils doivent accomplir. Après quoi, ils se dirigent vers un lavabo, se lavent les mains en disant le psaume, soit le psaume 50, soit ce psaume 25. Je laverai mes mains parmi ceux qui sont sans reproche et je ferai le tour de ton dél, Seigneur. Je ne vous cite pas tout le psaume parce que déjà je m'aperçois que Je vais être obligé de continuer demain, je ne vais pas finir aujourd'hui. Le prêtre et les diacres vont à l'hôtel de la prothèse. Il faut que vous sachiez que derrière l'iconostase, pour la plupart, vous le savez, mais il y a l'hôtel principal, évidemment, et il y a à droite et à gauche deux crédences, deux petits hôtels latéraux. Le petit hôtel sur la droite est une table de service où les servants déposent le pain béni, déposent l'encens, déposent tout ce qui est utile pour, c'est une desserte si vous voulez, tout ce qui est utile et indispensable pour la célébration et le bon déroulement de la liturgie. De l'autre côté, au côté nord, il y a l'autre petit hôtel, l'autre crédence, qui est l'hôtel de la prothèse, qui est l'hôtel où on prépare les saints dons. Prothèse ou proscomédie veut dire préparation. C'est là où on prépare les dons qui vont être offerts et qui vont être consacrés en corps et sang du Christ. Dans l'Église ancienne, cet hôtel-là ne se trouvait pas là, il se trouvait à l'extérieur de l'église et dans une salle spéciale où les fidèles apportaient les dons, toutes sortes de dons. Vous les Roumains, vous avez encore quelque chose comme ça en Roumanie. Vous voyez, vous avez des tables qui sont dressées dans le chœur. Et vous avez des gens qui apportent des gâteaux, qui apportent de l'huile, qui apportent du blé, qui apportent de tout, quoi. Non, mais des dons qui sont vraiment des dons de ce qui fait leur vie. Et en même temps, qui sont une participation à la vie de la communauté, c'est distribué et ça sert notamment à nourrir le prêtre et sa famille, en fait, toutes les... C'est beau, ça n'existe plus partout. Maintenant, ça a été simplifié en un apport simplement de prosphore. Je vous ai amené, j'ai fait prendre je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs, ces gâteaux-là, c'est pas ce que j'aurais voulu, mais ça correspond tout à fait à ce qui est nécessaire. J'ai pas voulu prendre des prosphores énormes pour pas blasphémer, mais pour pas mimer la liturgie. Donc j'ai pris à chaque fois d'autres choses. Et les prosphores ressemblent un petit peu à ce type de gâteau. Et suivant les traditions, il y en a dans certaines églises, on en prend 5 pour une liturgie. Dans d'autres églises, on n'en prend qu'une seule. Dans d'autres églises, on en prend 2. C'est le cas chez nous, dans la tradition wattonite, on n'en prend que 2. C'est ça qui était jadis apporté dans la salle extérieure à l'église et qui, au moment de la grande entrée, l'offertoire, était apporté en procession solennelle jusqu'à l'entrée du chœur, rite que les Romains ont conservé. Et si vous êtes attentif, on peut le voir encore aujourd'hui. Et maintenant, ces pains-là sont posés directement sur l'autel de la prothèse et le prêtre et du diacre préparent les saints dons. Comment ils préparent les saints dons? Ça, c'est toute une liturgie. Je ne voudrais pas vous rendre jaloux. Une liturgie qui est splendide, mais que vous ne voyez pas. Et c'est une grâce que vous ne la voyez pas. Ça fait partie du rite. C'est-à-dire que ce qui se passe derrière l'iconostase, porte et rideaux fermés, comme était fermé le Saint des Saints dans le temple de Jérusalem, par un rideau qu'on n'ouvrait qu'une fois l'an, et où par lequel personne ne pénétrait jamais, sauf une fois par an, et le grand prêtre simplement. Et encore le grand prêtre attaché avec une corde autour de la ceinture, de manière à ce que si jamais il mourait pendant l'exercice de ses fonctions dans le Saint des Saints, qu'on ne soit pas obligé d'aller le rechercher ou de le laisser se disloquer dans le sein des saints, mais on avait la possibilité de le tirer jusqu'à là. Ce qui montrait la sainteté du lieu où personne ne pouvait entrer, parce que c'était le lieu de la présence de la présence de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Ah oui. Et ce voile qui à la fois cachait la présence de Dieu, mais révélait la présence de Dieu, parce que derrière le voile il y a quelque chose. Or on savait que c'était la présence de Dieu. Ce voile-là n'a été déchiré définitivement et miraculeusement au moment de la crucifixion du Christ. C'est-à-dire à partir du moment où le Christ est mort et qu'il est ressuscité, à ce moment-là, le voile qui empêchait de voir le Saint des Saints, c'est-à-dire le royaume des cieux, ce voile-là s'est déchiré. Maintenant, il nous est possible, en partie, de voir ce royaume des cieux. Raison pour laquelle, d'une manière générale, les portes de l'iconostase sont fermées, ainsi que le rideau, parce qu'on ne voit pas ce qui se passe dans le ciel, appelons-le comme ça, dans le royaume des cieux. On ne voit pas ce qui s'y passe, mais à certains moments, il nous est révélé. Donc à certains moments, les portes ou les rideaux s'ouvrent et on voit la réalité momentanément, en partie simplement, mais on voit la réalité. C'est le cas lorsque le prêtre au nom du Christ bénit le cosmos, l'assemblée. C'est le moment où l'Esprit Saint ou le Logos, la parole de Dieu, se fait entendre dans le monde, les portes s'ouvrent et le Christ, Logos, la parole, traverse les portes et s'incarne parmi les hommes par la voix auditive, à travers la lecture de l'Évangile. C'est le moment où, pendant la grande entrée, le clergé viendra avec les saints dons et entrera triomphalement dans le Saint des Saints, qui représente à ce moment-là qui est le temple de Jérusalem, qui est symbolisé par le temple de Jérusalem, et dans lequel le Christ entre triomphalement pour y subir sa passion, sa mort et sa résurrection. Bref, à ces moments-là, les portes s'ouvrent, mais normalement, théoriquement, les portes et le rideau ne devraient jamais être ouverts, sauf à ces moments privilégiés. Or, pendant la proscomédie, c'est justement tout le résumé, en quelques minutes, d'une manière très sobre, le résumé de tout l'Ancien Testament qui est exprimé, qui est vécu, qui est récapitulé. Quand je dis récapitulé, ça veut dire que non seulement on imite symboliquement les sacrifices de l'Ancien Testament qui avaient été célébrés, mais on les récapitule. C'est-à-dire que par l'Esprit Saint, il y a on reprend tous ces sacrifices en un seul qui aboutit, ces sacrifices qui étaient la figure du sacrifice de l'unique agneau de Dieu, le Christ, mort sur la croix. Et ces sacrifices sont presque mimés de manière à bien montrer, bien sentir, bien. Il ne s'agit pas de le montrer. C'est comme les icônes. Les icônes ne sont pas dans les églises, ne sont pas sont pas une Bible écrite pour les illettrés. Mais les icônes ont pour but d'exister. Il n'est pas besoin de les regarder. Il n'est pas besoin de les voir. C'est mieux de les regarder et de les voir. Mais elles ont besoin d'exister. Elles sont là. Elles ont un sacrement de présence. J'ai vu, je crois que c'est au Sinaï, mais je ne me souviens plus où tout de suite. Il ne faut pas m'en vouloir. J'ai vu à des endroits complètement inaccessibles, au-dessus d'une poutre, j'ai vu des icônes peintes au-dessus des poutres. Qui voulez-vous aller voir là-haut? C'est invisible, c'est simplement les archéologues quand ils vont travailler, qu'ils découvrent ça. Pourquoi on est allé peindre là-haut? C'était pas pour que les gens le voient, c'était pas pour la beauté du lieu, c'est pour que ça existe. Et si la scène de l'Annonciation, de la Nativité, du baptême, tout, si ça c'est peint, c'est pour que ça existe. Bien sûr qu'il n'y a pas besoin que ça existe, mais c'est pour le rendre présent. C'est pour nous rendre présents à cet événement ou à ces personnes-là, et le sens de l'icône. Eh bien, les préparations des saints dons, c'est cette récapitulation de tous les sacrifices de l'Ancien Testament qui vont aboutir au vrai sacrifice, au seul sacrifice, qui est celui du Christ sur la croix, que vous savez... Quand il a lieu, et évidemment, partant de là, de sa résurrection, de sa glorification au ciel et du second avènement. Pour vous montrer ce que vous ne voyez pas, comment ces sacrifices-là, comment le prêtre et le diacre participent à ces sacrifices de l'Ancien Testament, ou les rendre présents, j'ai un peu vous le montrer. Après avoir pris une des deux prosphores, ou une des cinq prosphores qui sont présentées, le prêtre commence par l'élever. Oh, là que je ne vais pas encore m'en rappeler, donc tu nous as rachetés de la malédiction de la gloire, croix, cloué à croix personnellement, tu as fait jaillir pour nous la source de l'immortalité, notre Sauveur, gloire à toi. Je vais vite parce que je ne veux pas mimer, je ne veux pas... Le fait d'élever les pains le fait déjà se séparer du monde. Ce n'est plus un pain normal. Le pain, la prosphère qui était élevée comme ça, c'est déjà un pain, en partie consacré. On l'est ou on ne l'est pas. C'est déjà un pain consacré. C'est déjà un pain hors du monde. C'est déjà un pain hors du pain. Ce pain-là, il peut plus servir à autre chose. On ne peut plus le prendre pour le petit déjeuner et encore moins pour donner à manger aux petits oiseaux. D'ailleurs, le prêtre, avec un outil qui ressemble à une lance, comme une épée, si vous voulez, une lance triangulaire, bénit le pain en forme de croix en disant « En mémoire de notre Seigneur Dieu Sauveur Jésus-Christ ». En mémoire. Qu'est-ce que c'est que la mémoire? C'est pas le souvenir, c'est pas en nous rappelant le sacrifice de Christ. Là. Dans le vocabulaire biblique et chrétien, le mémorial, la mémoire, c'est le fait de rendre présent un événement passé ou un événement à venir. Quand on rend présent, quand on fait le mémorial de la passion et de la résurrection de Christ, ça ne veut pas dire qu'on mime comme si le Christ était mort et ressuscité une nouvelle fois, bien qu'on sache qu'il ne meurt pas et ne ressuscite pas une seconde fois. Mais ça veut dire que, par un miracle authentique de l'Esprit-Saint qui nous fait transcender l'espace, on est rendu présent, au-delà du temps et de l'espace, dans ce mystère, dans ce mystère qui s'est accompli historiquement seulement une fois, mais on est rendu présent. On est véritablement présent, et tous. Le petit chinois, le petit japonais, ou grand, j'en sais rien, et nous, on est réellement présents au pied de la croix avec la Mère de Dieu, avec Saint Jean, quand on fait mémoire de la crucifixion. La même chose quand on fait mémoire de la résurrection, etc. Le mémorial, c'est être rendu présent à... Donc là, on fait mémoire de notre Seigneur Dieu sur le Christ, c'est-à-dire que déjà, on s'associe à ce qu'il avait vécu au moment de sa crucifixion et ce qui avait été préfiguré pendant les sacrifices de l'Ancien Testament. Et avec la lance, l'outil dont je vous parlais tout à l'heure, le prêtre fait 4 incisions dans la prosphore en forme de croix, 4 points cardinaux. La prosphore est ronde, j'oublie de vous dire, comme l'éternité, comme le cosmos. Et en incisant la prosphore, il reprend les paroles du prophète Isaïe qui évoquait la future crucifixion de Christ comme agneau de Dieu, celui qui s'offre, qui est immolé, le seul véritable sacrifice offert à Dieu, puisqu'il est le sacrifice de sa propre vie. Comme une brebis, il a été mené à la boucherie, et on coupe un morceau. Comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été enlevé, et ses générations qui la racontera. Et enfin, on coupe en dessous, de manière à sortir une parcelle cubique, à peu près comme celle que je vous montre, mais mieux taillée normalement, qui à partir de maintenant s'appelle l'agneau. En évocation, vous comprenez bien, on l'appelle l'agneau. Cet agneau-là est retourné et le prêtre fait encore 2 incisions en forme de croix en disant et sacrifiez l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde pour la vie et le salut du monde. Vous comprenez bien que là, c'est la conclusion, encore prophétique, la conclusion de tous les sacrifices de l'Ancien Testament qui aboutissent à la crucifixion du Christ. Et la prosphore, après, est déposée sur la patène, qu'on appelle le discos, qui est plus grande que ma soucoupe, et elle est déposée comme ça, sur le, et la patène à un pied, et le prêtre, toujours avec la lancette, perce, donne un coup de lance dans la partie supérieure gauche de l'agneau, en disant, l'un des soldats de sa lance lui perça le côté, aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Et à ce moment-là, le diacre verse dans le calice qui est à côté, verse du vin et verse de l'eau. Vous comprenez que c'est j'ose l'appeler ce mime sacré, si vous voulez, hein, ce mime sacré, vous comprenez comment il exprime, n'est pas encore le sacrifice du Christ, mais il évoque ce que sera le sacrifice de l'agneau auquel aboutissent tous les sacrifices de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que le prêtre et le diacre, quand ils célèbrent ça, c'est inouï quand on y pense, sont en train, en un instant, en quelques minutes, de récapituler tout l'Ancien Testament et de rendre présent l'Ancien Testament dans ce moment unique de la crucifixion unique du Christ, dans sa mort, vraiment une vraie mort, puisque de son côté sortent du sang et de l'eau qui est mimé comme ça, et qui deviendra après, par la consécration, qui deviendra corps et sang du Christ pendant la liturgie. Et voilà comment tout ça est récapitulé à ce moment-là. Et puis, dans une autre prosphore, celle-ci est gardée en réserve, je dirai après pourquoi, et il commence par couper des petites parcelles. Le pain est trop mou là pour que je le fasse, il ne se tient pas, mais des petites parcelles, 3 d'abord qu'il va déposer sur le devant de l'agneau qui évoque, qui représente, qui chosifie, si vous voulez, la mémoire, toujours la mémoire, donc la présence réelle, symbolique mais réelle. La mémoire d'abord du supérieur du monastère, de l'igoumène du monastère. Après
du roi,
on évite d'y mettre Macron, nous, hein, mais il n'est pas roi. Hein. Non, nous, c'est pas le roi, c'est l'igoumène, l'évêque, et l'évêque qui nous a ordonné. Chaque prêtre, le prêtre qui célèbre, mais une parcelle en mémoire de l'évêque qui l'a ordonné. Et puis, il coupe une autre parcelle. Ah, il aurait dû commencer par ça d'ailleurs, mais dans mon explication, j'ai oublié. Bon. Il coupe d'abord une parcelle triangulaire qui met à droite de l'agneau, c'est-à-dire à gauche pour nous. Il met une parcelle triangulaire qui représente la mère de Dieu, qui fait mémoire de la mère de Dieu. De l'autre côté, il met 9 parcelles, ou souvent un carré avec 9 petits triangles qui représentent les parcelles, évoquant, faisant mémoire des différentes catégories de saints, c'est-à-dire les saints anges, les saints prophètes, qui sont, et dont on en nomme quelques-uns, Michel et Gabriel, et toutes les puissances incorporelles. On résume, on ne va pas expliquer toute la panoplie de notre foi. Ensuite les prophètes, les apôtres, les martyrs, les grands docteurs œcuméniques et hiérarques, c'est-à-dire les grands évêques, Saint Jean Chrysostome, Saint Basile le Grand et d'autres, les saints thaumaturges, Thaumaturge, et Damien Cyrégent, Saint Joachim et Anne, et puis finalement Saint Jean Chrysostome, Saint Jean Chrysostome ou Saint Basile le Grand, si c'est la liturgie de Saint Basile, évidemment, le saint dont on célèbre la liturgie. Et puis c'est à ce moment-là que l'on met avec un morceau de la deuxième prosphore, on gratte, parce qu'on ne peut pas mettre des gros morceaux à chaque fois, sans quoi il nous faudrait un grand plateau immense, on gratte des petites parcelles comme ça, et dont on fait 2 tas. Il y a différentes traditions suivant les différentes églises. Moi je dis comment on fait, mais on peut faire autrement ailleurs. Mais le principe est toujours le même. On gratte des parcelles au nom de tous les fidèles vivants pour lesquels on veut prier. Ici au monastère, on ne compte pas le nombre de parcelles, mais on dit 200 ou 300 noms, peut-être comme ça, de gens, vous par exemple, de ça, dont les noms ont été déposés préalablement. Et de l'autre côté, on en fait autant avec tous les défunts pour lesquels il nous a été demandé de prier. C'est-à-dire que quand vous avez le discos, la patène qui a été préparée comme ça, vous avez la représentation de l'Église tout entière. Symbolisée, bien sûr, il n'y a pas tous les noms, mais nous sommes tous en tout. L'Esprit-Saint est un, le Christ est un, si bien que si on prie pour nommément pour 200 personnes, c'est pour toute l'Église, depuis Adam jusqu'au dernier homme, qui sont commémorés, dont on fait mémoire, dont on fait le mémorial. C'est donc toute l'Église là, qui est déjà unie et qui est offerte, prête pour le sacrifice définitif, le sacrifice où l'agneau va devenir le corps et le sang, de fait le corps et le sang du Christ, et non pas simplement en préfiguration comme c'est le cas ici. À la suite de quoi, le servant amène l'encensoir, encore, je ne vais pas vous rappeler ce que signifie l'encens, n'est-ce pas, et le prêtre prend un petit objet qui s'appelle l'astérisque, qui a une forme d'étoile, de 4 branches, droite, qui se fait en forme de croix, si vous voulez, qui se plie d'ailleurs, et c'est une étoile que l'on pose sur le calice après l'avoir rempli d'encens, après l'avoir purifié par la fumée de l'encens. Cette étoile représente, à la fin de toute la préparation vétérotestamentaire que j'ai essayé de vous présenter, ça représente l'étoile de Bethléem qui vient sur toute la préparation de l'Ancien Testament et qui vient accomplir par l'incarnation, donc par la nativité du Christ dans la grotte de Bethléem, qui vient accomplir tout ceci et le rendre maintenant effectif. Et là encore, c'est une mémoire, un mémorial. On est réellement présent avec les bergers, avec les mages, au pied du Christ, incarné, enfant, mort, ressuscité. Tout le temps est résumé dans ces instants-là. On ne peut pas chosifier, on ne peut pas monnayer le temps. Mais on est justement tellement en dehors du temps, c'est déjà une expérience de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est cet instant éternel. Le temps est dépassé. On est présent à tout et en tout temps. Par-dessus l'astérisque, et par-dessus, là je sépare un peu, il y a le discos ici et le calice avec le vin et l'eau. Et le prêtre encense deux petits voiles carrés et recouvre les dons préparés, le discos par-dessus l'astérisque qui protège justement, qui évite au tissu de coller à la chair de l'agneau, et un autre par-dessus le calice. Et enfin, un troisième voile beaucoup plus grand qui, suivant les traditions, a deux cordons pour pouvoir être tenu autour du cou du diacre ou du prêtre, ou dans d'autres églises plutôt slaves, n'a pas de cordon du tout. Vous savez que le prêtre ou le diacre sont obligés, quand ils le portent sur le dos, de se coincer un angle de ce voile dans le col. Mais la signification est la même. Il encense ce voile-là qui s'appelle l'air. L'air, c'est le même mot que air, A-I-R, le vent, le souffle. L'air, évidemment, est le symbole de l'Esprit-Saint. C'est l'Esprit-Saint qui vient couvrir les dons. Qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs le prêtre à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il dit le prêtre quand il met l'air?
Couvre-nous à l'ombre de tes
ailes. Protège-nous sous la protection de tes ailes. Chasse de nous tout ennemi et adversaire. Pacifie notre vie, Seigneur. Aie pitié de nous et du monde. Et sauve nos âmes, toi qui es bon et philanthrope. Voilà. Et il couvre ce voile-là par-dessus les deux autres voiles, unifiant, si vous voulez, toute la préparation. L'air, évidemment, représente l'Esprit-Saint qui vient couvrir de son ombre les saints dons qui sont ainsi couvés pendant un certain temps, pendant tout le temps de la préparation de la liturgie, comme l'Esprit-Saint qui avait ombré la Mère de Dieu à l'Annonciation, en attendant qu'elle manifeste la vie qu'elle portait en elle au moment de la nativité dans la grotte de Bethléem. De la même manière, l'Esprit-Saint vient couvrir les saints dons qui sont en attente, en gestation, si l'on peut dire, en attendant la consécration à la liturgie, qui en feront de ce pain le corps du Christ, de ce vin le sang du Christ, etc. Voilà pour la préparation. Et après, la liturgie proprement dite commence. Une heure et demie pour vous expliquer la préparation. Ça ne fait que le 50e de la liturgie. Je continue quand même. Devant l'autel, j'ai oublié de vous dire quand même que c'est, à part l'agneau qui sera consacré tout à l'heure, les prosphores, ce qui n'a pas été pris des prosphores, ou dans les églises slaves, où les gens apportent chacun une, deux, trois, quatre, cinq prosphores qu'ils offrent à l'église, et non simplement les trois ou quatre ou cinq sont prélevés pour la liturgie, les autres sont coupés en morceaux, en petits cubes, et sont distribués de deux manières, sont distribués au moment de la communion comme ablution, juste après avoir communié. On prend un morceau de ces prosphores, de ces pains qui restent. Dans certaines églises, on y ajoute un petit verre de vin mêlé d'eau chaude, je crois. Hein, bon. Et on mange, on boit et on mange l'un et l'autre en ablution pour se désacraliser la bouche, en quelque sorte. Après, on peut sucer un bonbon si on veut, ou aller manger la dinde qui était en train de cuire, que j'ai évoqué tout à l'heure. Mais ce qui ne désacralise pas, c'est qu'on nous a reçu, la vie qu'on a à l'intérieur, évidemment. Et ça, c'est la première distribution. Une deuxième distribution, pour ceux qui n'ont pas eu l'antidérone parce qu'ils n'ont pas communié, à ce moment-là, après la liturgie, on leur distribue le reste de l'antidérone. Et c'est le pain béni que vous avez, que vous recevez à la fin de la liturgie, et qui est une participation sacramentelle au sacrifice qui a été accompli. C'est pas directement le corps et le sang du Christ, mais c'est la communion tout de même réelle avec tout le mystère qu'on vient de vivre. Pour la raison pour laquelle l'antidérone ne peut être distribué qu'au moins à ceux qui ont été baptisés. Les non-baptisés ne peuvent pas prendre l'antidérone parce que c'est la participation au sacrifice que l'on vient d'expliquer.
On peut vous poser une question ? À quoi correspond le petit son de cloche qu'on entend ?
Ah, c'est à la fin de la préparation, oui. Juste avant de mettre les voiles sur le discos et les calices, le servant sonne un petit peu comme ça, de manière à ce que les fidèles, dans leur cœur, disent les noms de ceux pour lesquels ils veulent prier, morts ou vivants. Et à ce moment-là, le prêtre continue à mettre des parcelles pour les noms inconnus de lui, mais que les gens c'est une manière de montrer la participation des fidèles. Voilà. Donc, ceci étant fait, on procède à la liturgie proprement dite. De nouveau, il faut les retrouver. Ce sont des cercles concentriques. C'est un unique mystère, mais qui se renouvelle perpétuellement et éternellement, d'une manière toujours nouvelle, en étant toujours la même chose. Les ministres de l'autel, les prêtres, diacres, et souvent les servants qui ont à cœur de faire la même chose, s'inclinent trois fois. Ô Dieu, sauve au pécheur que je suis, roi céleste, paraclet, esprit de vérité. De nouveau, on invoque encore l'Esprit Saint, comme au début de la liturgie tout de suite, et pour les mêmes raisons, parce que le mystère qui va être accompli ne peut pas être accompli par des hommes s'ils ne sont pas mus par la force de l'Esprit Saint. Et puis, le ton est donné sur la liturgie, sur le but de la liturgie. Après avoir dit « Roi céleste » et « Gloire » trois fois, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes bienveillance. Vous devez vous rappeler évidemment les paroles des anges au moment de la nativité du Christ quand ils se sont approchés des bergers pour leur dire d'aller vénérer le Dieu qui venait de naître dans la grotte. Mais en même temps, nous avons ici l'expression des deux aspects de la liturgie. Le premier aspect, gloire à Dieu au plus haut des cieux. C'est-à-dire notre être, notre regard, notre âme se tourne exclusivement dans le royaume des cieux. On change de niveau de vie. On quitte la terre et on se propulse, par la force de l'Esprit Saint, on se propulse à ce moment-là dans le royaume des cieux. On n'est plus là, on n'est plus sur terre. Hélas, on l'a encore un peu. Et en même temps, et paix sur la terre aux hommes bienveillants. C'est-à-dire que notre rôle en tant que prêtre que nous sommes tous. C'est de chanter d'abord la gloire de Dieu que nous voyons, mais en même temps de le rendre présent sur terre, d'avoir ce mystère angélique, de proclamer, de montrer, de vérifier auprès des hommes la véracité de cette paix qui est donnée par Dieu. Vous avez les deux aspects de la liturgie, l'aspect de doxologie, gloire à Dieu, et l'aspect de mission sur terre, de répandre la gloire que nous-mêmes nous voyons. Et puis encore, une invocation à l'Esprit Saint. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange, parce que sans l'Esprit Saint, comme je vous le disais, c'est impossible de réaliser. Ensuite, le diacre dit au prêtre: Maître, c'est le temps d'agir pour le Seigneur. Là, il y a un développement à faire. Quand le diacre dit: Maître, c'est le temps d'agir, ça ne veut pas dire: allez, réveille-toi, c'est le moment d'y aller là maintenant. Hein. C'est pas le moment. C'est le temps au sens fort du terme. Le Christ avait dit, quand la mère de Dieu lui avait dit que les époux de Cana n'avaient plus de vin, il en dit: mon heure n'est pas encore venue. L'heure, elle est arrivée, comme le dit saint Jean, maintenant l'heure est venue, Père, glorifie ton Fils. L'heure, c'est l'heure de la glorification du Fils. La glorification, c'est-à-dire la glorification de la nature humaine, je ne voudrais pas dire d'hérésie, mais de la nature humaine du Christ, qui est glorifiée par sa passion, sa résurrection, et qui maintenant s'élève dans le lieu où elle aurait dû être, sa nature humaine, toujours dans le royaume des cieux. Donc, quand on dit c'est le temps d'agir, c'est ce temps supra-historique. C'est le temps de la glorification du Christ, le temps de la glorification des hommes en Christ, en Dieu, dans la gloire de Dieu. C'est ça le temps qui nous est donné de célébrer à la liturgie. Je pourrais presque dire que, ayant dit ça, maintenant on pourrait arrêter la liturgie et dire: non, il faut accomplir, c'est encore dans le temps, il faut accomplir tout. Mais déjà, le but est proclamé, le but est réalisé. À ce moment-là, le prêtre prend l'évangéliaire, la parole de Dieu, le Verbe de Dieu, qui est sur l'autel, et signe l'autel avec l'évangile sur les quatre points cardinaux en forme de croix. C'est-à-dire que le petit centre de l'autel où est placé l'évangile est répandu aux quatre coins de l'univers, à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. C'est une expansion éternelle de ce petit mouvement, de cette petite réalisation que nous faisons sur l'autel, mais aux dimensions du cosmos tout entier. Et en faisant cela, il dit: bénis le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en réponse à la demande de notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, etc. Et quand on dit bénis le règne, ça veut dire que, comme je vous l'ai déjà expliqué avant, rien que par cette invocation efficace, nous changeons, nous changeons, nous C'est toute l'Église qui change encore de niveau, qui arrive au niveau du règne accompli déjà du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous ne sommes plus dans le temps humain, historique, chronologique. Nous sommes dans l'autre temps. Nous sommes dans le temps éternel. Et maintenant, tout ce qui va se dérouler, ce n'est plus des choses humaines. Elles sont aussi humaines, mais elles sont humaines, mais transfigurées. Nous sommes arrivés à un autre stade. Nous sommes arrivés à la fin, à la réalisation de la raison, de notre raison d'être sur Terre. Je suis obligé de vous donner une petite précision. Vous avez entendu que je dis « Bénis le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Il y a des contestations sur cette traduction, comme il y en a beaucoup dans la Bible d'abord, et dans la liturgie ensuite. Parce que la manière dont c'est exprimé en grec, et je crois aussi en slavon, mais je m'avance prudemment parce que je ne lis pas le slavon, mais ça m'a été expliqué comme ça. En roumain, je n'en sais pas, dans les autres langues, je ne sais pas. Je crois qu'en anglais, c'est comme ça aussi. Il n'y a pas de verbe. C'est-à-dire qu'on peut le comprendre comme béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme un souhait qui est tout à fait logique, qui est tout à fait normal dans ce que l'on est en train de célébrer, que ce soit ce que nous allons faire, soit vraiment la manifestation du règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ça peut être aussi compris comme béni est déjà le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce qu'effectivement, depuis que le Christ est mort et qu'il est ressuscité, ces choses-là sont accomplies. Ce n'est plus simplement à venir, mais c'est déjà. Mais c'est les deux à la fois. C'est déjà accompli et pourtant encore à venir. Ou pourtant encore à venir et déjà accompli. Comment exprimer ça ? Le génie de certaines langues permet de garder cette ambivalence. C'est plus difficile en français. Mais en français, on peut élider le verbe « béni le règne du Père » avec le risque d'une incompréhension, mais à mon avis, le risque en vaut la peine, qui permet de garder les deux. Et puis, comme on a dit que la liturgie, c'était une manifestation humaine de la transfiguration du monde par l'Esprit Saint à travers le ministère que Dieu nous a confié, vient une grande ecténie. Comment vous appelez dans le rite latin les intentions que vous dites, prions pour un tel.
Les intentions.
Non, il y a un terme que je connais par cœur, mais je ne peux pas m'en souvenir. Une prière universelle.
Ah oui, bien sûr.
En paix, prions le Seigneur pour la paix qui vient d'en haut et le salut de nos âmes, etc. Et là, on prie pour tous les besoins des hommes résumés. On ne les chosifie, on les détaille pas. On ne prie pas pour la meilleure santé de Christophe, pour l'examen de Cunégonde et le passage de vie à trépas de Titus. Vous savez que quand on veut parler dans le monde latin, quand on veut parler d'un tel, on l'appelle Titus. Quand on ne veut pas révéler, quand on va trouver l'évêque, vous savez, Titus a quitté sa femme, et ça, comme ça l'évêque ne sait pas de qui on parle. Dans le monde grec, non mais c'est important canoniquement, ça, on peut être tenu à faire ça. Et chez les Grecs, c'est Thaddée, un tel, Thaddée. Chez les Russes, je sais pas, non, mais on a tous des Donc, on ne prie pas pour Titus, mais on prie pour tous les besoins. Et il faut vous rappeler que la liturgie, la divine liturgie, c'est la divine liturgie. Je sais que je risque de créer des vagues, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Mais c'est la divine liturgie célébrée dans une, pour, par et dans une assemblée, c'est-à-dire une église, église et assemblée, c'est le même mot, ecclésia, ça veut dire assemblée, dans une église locale précise. Mais parce que toutes les églises sont en communion les uns avec les autres, ce que l'une vit, les autres le vivent aussi. Mais c'est quand même la liturgie d'une assemblée, et non pas la liturgie, et non pas la manifestation de la liturgie de toutes les églises. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et ça, c'est important parce que ça, c'est là le mystère de la divine liturgie, justement. Mais c'est ça le mystère de l'Église. De même que nous sommes des personnes individualisées, des personnes séparées les unes des autres. Bien que la loi m'en donne la possibilité, je suis un homme et non pas une femme. Je suis né au XXe siècle et je ne suis pas du 15e millénaire avant notre ère, etc., etc. Mais en même temps, puisque nous sommes unis par l'Esprit Saint, ma vie et ta vie en Christ, c'est la même. Scientifique que j'ai entendu il y a peu de temps expliquer au sujet de la conscience, je ne prends pas sa parole comme l'évangile, mais c'est quelque chose d'intéressant. Il expliquait au sujet de la conscience que d'où vient la conscience ? Notre conscience vient-elle de notre cerveau ? Est-elle localisée dans notre cœur ? Et la conscience des autres, d'où vient-elle? Où est-elle localisée? Il expliquait plutôt que l'unité de tous les hommes est tellement profonde qu'il y aurait peut-être, je dis bien peut-être, une conscience unique. Notez que quand on dit « vous êtes le corps du Christ », on peut se poser la question. Et que chacun de nous, chacune des personnes, serait comme des récepteurs, comme un récepteur personnel d'une conscience unique. De même que vous avez une antenne de radio, de télévision qui dispense et qui est un message unique, hélas non, et vous avez une multitude de récepteurs qui reçoivent la même information, mais chacun à sa manière. Les uns sur un petit écran, les autres sur un grand écran. Les uns en noir et blanc, les autres en couleur. Bref, mais ce serait les mêmes. Nous serions des récepteurs différents. Ainsi, on est quelque chose de notre humanité. Nous sommes tellement unis les uns et les autres en Christ que ce que l'un vit, c'est tout ce qu'il vit. Nous sommes les récepteurs d'une unique information qui est cette information de la vérité, qui est l'union de Dieu et des hommes. Après, on peut décliner ça sous toutes ces formes. Et c'est ce que nous faisons lorsque nous prions pour cette sainte église locale. Ça ne veut pas dire qu'on se désintéresse des autres. C'est-à-dire que nous vivons localement, nous transmettons. Ce que fait que notre liturgie devient aussi la liturgie du monde entier. Pour ceux qui voyagent par voie de mer, de terre et d'air, on ne dit pas pour Guillaume qui est sur la voie de la Chine, sur Sylvia qui est dans les embouteillages de l'autoroute, enfin je ne sais quoi encore. C'est pas que ça ne nous intéresse pas. Mais c'est d'autres choses qui est visée. C'est autre chose, c'est notre chemin vers le royaume des cieux à tous. Pour que nous soyons délivrés de toute affliction, colère, péril et nécessité. À travers ces quatre défauts, quatre péchés, c'est tous les autres péchés, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui était véritablement notre péché, notre abandon de Dieu, notre oubli de Dieu, etc. Tout ça, c'est un résumé, cette ecténie, c'est un résumé de tous les besoins de l'Église, de l'Église locale, donc de toute l'Église, de tous les temps et de tout l'univers. C'est compliqué, c'est pas compliqué. C'est compliqué de trier. Parce que c'est toute chose qu'il faudrait dire en même temps. Il faut se rappeler de l'histoire de l'Église. Il faut se rappeler de l'histoire de la... Je note quelque chose pour ne pas oublier. Dans l'Ancien Testament... Il y avait un seul lieu de culte, puisqu'il n'y a qu'un Dieu, il n'y avait qu'un lieu de culte. Je dis de culte, un lieu de sacrifice, c'était le temple de Jérusalem. C'est là où on célébrait les offices, les prières, la prière était là, le sacrifice était là. Vous aviez aussi, partout, une multitude de synagogues qui étaient des lieux d'enseignement et des lieux de prière en même temps. On enseignait, on méditait et on priait. Ça, c'était tout l'Ancien Testament. Ensuite, comme vous savez et comme vous vivez, le Christ est mort, il est ressuscité. Les apôtres, dans un premier temps, on continuait à aller dans le temple de Jérusalem pour y célébrer les sacrifices qu'il était, selon la loi, obligé d'offrir à Dieu. Et ils allaient dans les synagogues pour continuer à la pratique de la parole, de l'écoute de la parole de la parole de Dieu et de son explication. Et la coutume était, on le voit dans l'épisode de Jésus dans la synagogue de Nazareth, était de demander à l'un ou à l'autre, une personnalité plus ou moins plutôt connue, de bien vouloir lire un passage et de commenter ce passage. Et quand les apôtres allaient à la synagogue, après la résurrection du Christ, après la Pentecôte, ils étaient dans la synagogue. Et il disait en substance que tout ça, c'était bien, mais c'était d'une préfiguration, mais que maintenant, celui qui était annoncé, c'est celui-là que vous avez tué, crucifié, et qui maintenant est ressuscité. Au scandale, et on les fichait dehors. Ce qui a fait une séparation, à ce moment-là, entre la liturgie, si vous voulez, synagogale, et la vie chrétienne. Les chrétiens, eux, pendant cela, d'abord, d'une manière complètement cachée, dans des maisons, donc célébraient des scènes domestiques, ils célébraient avec des prières appropriées tirées du temple et de la synagogue, ils célébraient la sainte scène que le Christ avait célébrée, ce qu'on appelle le jeudi saint, quand, avant sa passion, il avait pris du pain et du vin, l'avait partagé à ses saints, aux disciples, d'une manière qui était liturgique, parce que c'était pas n'importe quel pain, pas à n'importe quel moment, c'était du vin et pas n'importe quel vin et pas n'importe quel moment, qui, suivant un rite très, très particulier, le Christ avait choisi ça pour en faire son corps et son sang. Donc, dans les maisons, on a évoqué, on a célébré cette même scène, en prenant le chef des apôtres ou un apôtre après quand ils sont répandus dans le monde entier pour présider cette sainte scène. Et cette sainte scène, n'ayant les chrétiens n'ayant plus accès ni au temple ni à la synagogue, ont illustré ont meublé ce temps de prière pour, comme le sacrifice de la Sainte Cène avait pris le pas sur les sacrifices de l'Ancien Testament, donc du Temple de Jérusalem, qui était devenu caduc, c'était maintenant ça l'essentiel, mais ils ont repris des éléments rituels du Temple de Jérusalem qu'ils ont mis dans leurs maisons, puis dans leurs églises, à partir du IVe siècle, quand le Saint Constantin a donné des grandes basiliques pour en faire des églises. Et en même temps, ils ont gardé, ou ils ont repris, ils ont dépassé les rituels, certains aspects du rituel des synagogues, où il y avait des lectures, forcément de l'Ancien Testament, puisqu'il n'avait pas de nouveau encore, il était en train de naître. Et il reprenait les lectures de l'Ancien Testament et les commentait et dans les synagogues. Et on a fait la même chose dans les maisons. Ce qui a été à l'origine de nos célébrations liturgiques telles qu'on l'a aujourd'hui, avec d'abord la célébration de la parole avec lecture de l'épître et de l'évangile que vous connaissez, qui reprennent les rites de la synagogue, et le rituel de certains aspects du rituel du temple, qui a fait le rituel du sacrifice eucharistique avec la consécration du pain et du vin et de l'agneau dont on a vu tout à l'heure la préparation. Ça vous donne le plan général de la liturgie. Après, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'arc-boutants qui viennent soutenir tout cet édifice. La deuxième chose sur laquelle je veux attirer votre attention, c'est que dans l'Église ancienne, après le IVe siècle, à partir du IVe siècle, quand on a quitté ces célébrations domestiques cachées, l'évêque, qui était le président à la suite des apôtres, qui était le président des liturgies, de l'Église locale et des liturgies, l'évêque avait sa résidence en dehors de la basilique ou de la cathédrale. Et quand il devait célébrer la liturgie, le peuple se rendait à la résidence de l'évêque, où on le revêtait de ses ornements épiscopaux, et il venait en procession avec toute la foule jusqu'à l'église, et là commençait la célébration de la liturgie. Pendant cette procession, à partir de la résidence jusqu'à l'église, on marchait donc en procession avec la croix sur une hampe, avec les flabellums, des disques, quelquefois même avec des plumes par-dessus, représentant les chérubins et les séraphins qui accompagnaient glorieusement, qui manifestaient la gloire de Dieu. Et tout le monde partait en procession, chacun revêtu de ses habits, de ses habits liturgiques. Et on faisait trois stations. On s'arrêtait, on chantait des psaumes, des cantiques, puis on s'arrêtait et le diacre entonnait « En paix, prions le Seigneur pour la paix, secours-nous, sauve-nous et pitié de nous. » Voilà. Exactement comme on fait encore les jours de grande procession, quand à Pâques par exemple, ou à d'autres moments, quand on tourne autour de l'église, et ceci est particulièrement marqué lors des funérailles, qui reprennent exactement le rite des funérailles du Christ du Vendredi Saint, quand on prend l'épitaphios, qu'on porte l'épitaphios en procession solennelle et glorieuse, malgré le caractère funèbre de la cérémonie, et que l'on fait le tour de l'église ou du cloître, on fait le tour, et trois fois on s'arrête, et c'est la même chose avec un défunt. On prend le défunt sur son catafalque et on fait la procession entre la maison, le lieu de repos où il est, jusqu'au cimetière. On fait dans cette procession Maintenant, on fait ça dans des voitures où on ne voit rien et on ne peut pas les faire s'arrêter parce qu'il y a de la circulation. Mais sans quoi, normalement, on s'arrête trois fois. On dit encore et sans cesse en priant le Seigneur. Et après, on reprend des chants. Et dans le cas du Vendredi Saint et des funérailles, on chante pendant cela Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel. C'est-à-dire qu'on chante précisément ce pourquoi on est fait de chanter la gloire de Dieu, comme on l'a vu dès le début de la liturgie. Et là, le défunt, en l'occurrence, ou le Christ, le Vendredi Saint, cette procession solennelle et triomphale amène non pas au tombeau, le tombeau n'étant qu'un moment particulier et provisoire, mais dans le véritable temple, non plus de Jérusalem, mais de la Jérusalem céleste, où il est définitivement et totalement englobé dans la gloire de Dieu. Eh bien, c'est ce que vous retrouvez chaque jour à la liturgie. Quand vous avez au début de la liturgie, après la grande prière universelle que j'ai évoquée précédemment, que vous avez ces trois antiennes successives. Les trois antiennes, ce sont ces trois segments de procession qui amenaient de la résidence de l'évêque à l'église. Et c'est ça qui nous est resté sous cette forme-là, réduite évidemment, parce qu'il en a plus des centaines de mètres à parcourir. Et l'évêque étant présent, s'il est physiquement absent, il est spirituellement présent, notre première antienne est une antienne à la Mère de Dieu, celle qui nous représente, celle qui nous a donné celui que nous célébrons justement, celui que nous devenons. À la suite de la deuxième antienne, après avoir fait notre première station, à la suite de la deuxième antienne, on chante le Ô Monogénis, le Fils unique. Fils unique engendré, Verbe de Dieu, immortel par essence, et qui daigna pour notre salut en ta bienveillance t'incarner de la sainte Théotoque et toujours Vierge Marie, sans changement te faisant homme, et être crucifié au Christ notre Dieu, par la mort ayant terrassé la mort, étant l'un de la Sainte Trinité, glorifié avec le Père et le Saint-Esprit, sauve-nous. Je le cite parce que c'est une extraordinaire. C'est une prière relativement tardive. C'est l'empereur Justinien qui l'a... Qu'il l'a fait insérer à ce moment-là, en conclusion de l'antenne précédente. C'est-à-dire qu'alors qu'on a invoqué la Mère de Dieu précédemment, pendant notre procession, dans l'antienne, tout d'un coup, on aboutit à la glorification de qui ? De celui dont on reconnaît qu'il est le Fils unique de Dieu, le Verbe de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, mais incarné en ce monde, parle dans le sein de celle que l'on vient de chanter précédemment. C'est tout le mystère de notre salut qui est exprimé par cette prière que l'on chante toujours avec enthousiasme, ou qu'on entend, parce que souvent ce sont des chœurs qu'elle chante et non pas la foule, mais la foule y prend part aussi. Dans une petite église comme la nôtre, tout le monde peut chanter parce que c'est facile. Mais quand c'est des foules où vous avez 2000 personnes, s'il fallait chanter et tout ça, imaginez la cacophonie que ça pourrait représenter. Encore que, je me souviens en 1970, avoir été en Roumanie au monastère Simbata de Sousse, non encore reconstruit. Et c'était pour le jeudi lumineux, le jeudi d'après Pâques, où dans le rituel orthodoxe, on chante uniquement l'office de Pâques, l'office nocturne de Pâques. Et il y avait peut-être 5000, peut-être 7000 personnes dans les bois que représentait le monastère. Et tous les gens chantaient le canon par cœur, à tue-tête. pas. Je ne peux pas vous dérire ça. Tout le monde le savait. Tout le monde le savait. Et je vous assure que ce n'était pas une cacophonie. C'était justement le contraire. C'était une harmonie. Chacun chantait avec sa voix, mais ça sortait du cœur. Je n'ai jamais retrouvé ça nulle part. Mais enfin, je vous témoigne de ce passage-là. Et puis, il faut avancer. La troisième antienne. Et pendant la troisième antienne, le diacre, le prêtre donne au diacre, ou le prêtre s'il est tout seul, évidemment on se sert tout seul, prend l'évangéliaire qui est sur l'autel et fait une humble procession en tenant l'évangéliaire sur sa poitrine.